On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Bonjour à tous, un Paris Nouakchott en 2 minutes.
Bonjour tout le monde, un coup de larmes aujourd'hui, mais on n'est pas triste pour autant.
Bonjour, aujourd'hui une poêle qui croque.
Bonjour, aujourd'hui les vins ont de l'accent.
Bonjour, ça va faire pop 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 dans votre four.
Bonjour, on va repeindre le studio en rose, bref, on va revisiter l'imaginaire du rosé.
Bonjour, pour moi ce sera plus de fruits, moins de sucre, ce n'est donc pas de la confiture.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour la dernière émission de la saison. Pas d'invité ni de thème imposé, mais la bande dont on va déguster presque au complet. On vous livre sur un plateau, chers auditeurs, nos petits plaisirs de l'été. Nos bonnes adresses, nos lectures nourrissantes, nos recettes en 2 coups de cuillère à peau, nos bonnes bouteilles pour l'apéro. Un menu réjouissant que j'ai composé avec 3 chroniqueuses et 3 chroniqueurs, vous entendiez leur voix il y a un instant. Côté filles, notre chroniqueuse tout terrain, Elvira Masson, notre journaliste gastronomique pour Télérama, Estherelle Payani, notre libraire gourmande Déborah Dupont. Et côté garçon, 2 de nos chroniqueurs vins, Dominique Hutin et Jérôme Gagnez, et notre militant de l'agriculture du vivant, auteur des coups de lame qui balafre l'émission régulièrement, Arnaud Daguin. Mais il y a aussi un chroniqueur invité qui vient totalement chahuter mon souci de parité. Il est connu comme le loup blanc sur les ondes de France Inter, où il cause cinéma, mais sa passion cachée, c'est la bouffe. Laurent Delmas, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Laurent?
Oui, très bien, merci.
Vous êtes co-animateur d'On aura tout vu pendant l'année. Vous allez animer pour le 3e été consécutif Ciné qui chante à partir du lundi 1er juillet pendant tout l'été, de 10h à 11h, du lundi au vendredi.
Des chansons et des films tous les
jours.
Chouette.
On va se régaler merci. Tout l'été. Laurent est là pour nous livrer son coup de cœur de l'été, mais il nous a également mijoté un gentil traquenard, un blind test intitulé Le cinéma se met à table. J'espère que vous allez les faire souffrir, Laurent.
Mais c'est le but, hein, sinon c'est pas drôle.
Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Nadia Chougui, Élise Christophe, toutes les infos, les recettes, les lectures de ce dimanche sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster, et on retrouve également, évidemment, le podcast de l'émission.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Mon coup de cœur de la semaine. Je vous ai apporté des cookies, parce que les fleurs, c'est périssable. Voilà, des cookies dont on peut raisonnablement deviner le parfum au premier coup d'œil.
Chocolat.
Ah, vous m'avez pas répondu vanille quand même, très bien. Bon, effectivement, ils sont sombres, voire noirs. Alors ?
Hyper bon, on parle à la bouche pleine.
Non, mais fais un peu la grimace, Stérel.
C'est assez sucré, en fait, ça m'a surpris. Je pensais que c'était plus amer, parce que c'est un chocolat bien foncé.
D'accord.
Il y a un peu d'amertume, c'est un peu torréfié. J'ai même l'impression qu'il y a un peu de malt dedans.
Il y a un peu de ça, il y a un côté torréfié, il y a une note de sel, ça doit être le sarrasin un peu grillé. C'est fondant, c'est presque cru. Hein. Ça a
oui,
une
c'est
texture...
fondant parce que par cookie, souvent, on entend des choses un peu plus structurées.
Oui, c'est pas sec du tout.
Résistant.
C'est assez moelleux.
Hein. Oui, c'est côté café, même. Hein.
C'est un coup cru. Voilà, chocolat bio, 70% de cacao, beurre fermier de Normandie, farine de sarrasin bretonne bio, quelques raisins secs et de la fleur de sel. Voilà, ce sont les cookies d'une nouvelle pâtisserie, boulangerie, table d'hôte, coffee shop de Paris, l'atelier Auger 5, rue Auger, Paris 20e.
Ça reste très très bien en bouche, si je puis me permettre.
C'est long, effectivement.
Ouais,
c'est très long en bouche avec cette rondeur et cette amertume du chocolat. Pour les cookies, pour un plat du jour bien copieux à 14€, et même pour du pain nature de haute qualité, je vous ai apporté une miche de campagne. Arnaud Daguin, qu'en pensez-vous? Il est sonore?
Oui. La croûte est cuite comme j'aime. Ça sent très...
Ça veut dire bien cuite.
Très très bon. Oui, ça veut dire bien cuit. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la vraie croûte. Ça
bronzé à souhait. Bien bronzé, quoi.
C'est joli.
Alors, allez-y, goûtez.
Pâte bien mouillée, je pense.
Il faut le décrire, peut-être une espèce d'ovale assez plat, au final.
Oui, c'est une miche plate. Pas de nom.
L'équipe de l'atelier Auger travaille. Figurez-vous, ça va vous intéresser, Arnaud. Arrêtez de faire les indisciplinés, même si c'est le dernier jour d'école. Ils travaillent des blés de population bio qui nous viennent du Languedoc. L'atelier Auger moule lui-même ses farines sur un moulin astier. Donc mouture fraîche, fermentation longue, cuisson au feu de bois, ce qui est quand même assez rare à Paris. Et le résultat, c'est ça.
Eh ben, écoutez, c'est très très bon.
Cette miche de farine paysanne.
C'est très très bon. Voilà du bon pain. Merci.
Atelier Auger, Paris 20e, c'est 5 rue Auger. En parlant de cookies, Déborah, vous avez la solution pour préparer ce biscuit en vacances, et même quand on n'a pas de four, quand on passe par exemple son été sous la tente.
Effectivement, les éditions Larousse viennent de sortir un livre intitulé « Les recettes du campeur » par Pauline Dubois. Et c'est enfin un livre moderne, j'ai envie de dire, pour cuisiner en camping. Car très souvent, on avait plutôt des recettes roboratives, un petit peu à l'ancienne, comme dans la réédition de la cuisine de plein air d'Edouard de Pomian aux éditions Menu Fretin, où je me demande quand même qui fait des tournes d'eau Rossini en camping.
Oui, même si c'est un joli livre, réédité par Menu Fretin, mais effectivement, il y a des tournes d'eau, on se demande comment on peut les cuisiner en plein air.
Donc là, un livre beaucoup plus accessible avec des recettes de petit déjeuner, de snacks et surtout une utilisation très intelligente de la poêle, puisque tous ceux qui sont allés camper un jour savent que c'est quand même l'ustensile de base. Il y a notamment une recette de chouk-chouk aux œufs, de lasagne, de gratin dauphinois à la poêle, gâteau au chocolat, gâteau aux pommes et donc effectivement un petit cookies que je vous invite à partager ici.
Et qui a logiquement la taille de la poêle. En l'occurrence, votre diamètre, c'est 12 cm environ.
En l'occurrence, j'ai triché. Je ne me suis pas vue apporter une poêle de 18 ou 24 cm de diamètre à la maison de la radio. Donc, j'ai pris une poêle à pancake. Mais ça fonctionne très bien en grand. J'ai testé aussi.
Ce cookie. C'est pas mal.
Il est pas mal du tout et d'une simplicité enfantine. Puisque
moelleux.
Très moelleux.
Super.
Alors, le secret, c'est très simple. On commence par faire fondre 50 grammes de beurre dans la poêle.
Ah, 50 grammes quand même.
50 grammes. Oui, mais 50 grammes de beurre, regardez, c'est très simple.
Dans un sac à dos.
On le laisse tiédir, on ajoute un œuf battu, on mélange directement dans la poêle, puis 75 grammes de cassonade, 125 grammes de farine, une cuillère à café de levure chimique, 50 grammes de chocolat blanc concassé, 50 grammes de chocolat au lait concassé, 2 cuillères à soupe de noix de pécan. Et c'est tout.
Mais on tout ça en direct comme des œufs brouillés.
En direct dans la poêle, en dehors du feu. Et une fois que la pâte est amalgamée, on l'écrase légèrement. On remet sur le feu feu doux. 8-10 minutes sur la première face. On retire le cookie. On le retourne.
Sans le casser.
Sans le casser, délicatement.
Quelle est bonne cette idée.
Et à nouveau, 5-6 minutes
façon
à la poêle.
Façon tortilla.
Voilà.
C'est sablé aussi, c'est très très bon.
Belle texture, sablé, beurré, c'est tout.
C'est assez réconfortant quoi, au final. Moi j'étais en Bretagne il y a peu de jours, toutes les phrases finissent par « Tiens, on se dépêche avant qu'il pleuve, je suis au camping !» Ça, ce serait assez bienvenu.
Et redites-nous, Déborah, qui on doit féliciter à part vous.
Les recettes du campeur, donc de Pauline Dubois, aux éditions Larousse, un petit volume à 9,95 qui s'emporte partout en vacances.
Alors le gratin dauphinois, vous n'avez pas essayé?
Pour la prochaine.
Pièce montée.
La recette du cookie à la poêle à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et je vous signale également la sortie de ce livre pour parler de vacances en plein air et plus particulièrement pour ceux qui font de la randonnée ou du vélo. Food Trek, rien que le nom j'aime bien. Oui. Food Trek, petite allusion à Food Truck, évidemment les fameux camions gourmets, la cuisine pour les voyageurs à pied ou à vélo de Elena Battisti et Thibaut Blais. Voilà, c'est aux éditions Glénat. Tout en dégustant des cookies à la poêle sous la tente, Elvira se nourrit l'esprit.
Oui, alors un peu moins digeste peut-être que la recette de cookies de Déborah. Une lecture un peu costaud pour les vacances, mais en même temps, si sous la tente, pendant les vacances, on n'y passe ce genre de livre, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le lire. C'est Histoire de l'alimentation, histoire au pluriel de Jacques Attali chez Fayard. Notre modèle actuel d'alimentation ne peut pas durer. Voici le postulat, alors c'est même plus un postulat à ce stade, c'est un constat sans appel. En grand 1, Jacques Attali revient sur le rôle central qu'a joué la nourriture dans l'évolution du monde. Alors on écume un peu vite la préhistoire, les grandes civilisations, mais cette partie est indispensable pour comprendre à quel point la nourriture est depuis toujours plus qu'un besoin vital, à quel point le repas sédentaire pris ensemble joue un rôle de structuration sociale, et que le pouvoir ne parvient pas à donner à manger au peuple vient le temps de la révolte et de la révolution, 1789 en France, effondrement de l'Empire chinois à plusieurs reprises, Empire égyptien pareil. Ça, c'est la partie historique. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est la suite. Je suis en pleine lecture en ce moment. Je suis pas encore sous la tente, mais je suis déjà en pleine lecture. Jacques Attali n'est pas franchement un anticapitaliste assumé. Hein. Il serait même plutôt l'avocat du libéralisme mondialisé.
Oui,
mais
ça,
sa thèse est assez surprenante. Et c'est le point fort du livre. C'est la thèse selon laquelle le pire ennemi du repas, c'est le capitalisme. Manger est un acte subversif pour le capitalisme, car lorsque vous mangez, c'est du temps que vous passez à ne pas faire autre chose. Vous ne produisez pas. Donc il faut à tout prix réduire le temps et l'argent consacré au repas.
À l'anglo-saxonne.
Exactement. Bah, c'est la révolution américaine du milieu du 19e siècle qui donnera le coup d'envoi à l'industrialisation de l'alimentation et partant de la production agricole. Cette industrialisation a mis provisoirement à l'abri des famines une grande partie de l'humanité, mais avec des chèques sans provision et à la faveur d'un système qui tue la planète. En gros, mal manger comme on le fait depuis 60 ans tue la planète. N'est-ce pas Arnaud ? Bien manger.
Que nous ou pas la planète, ça me fout la planète.
Bien manger peut la sauver, et nous sauver, ou en tout cas lutter contre sa destruction programmée. Alors à la question comment nourrir les 10 milliards d'êtres humains qui devraient peupler la planète en 2050, Jacques Attali soumet deux voies possibles.
une voie vraisemblable et une autre qui est souhaitable. Mmh. La vraisemblable, c'est qu'on va trouver progressivement des substituts sous forme de viande artificielle, d'algues, d'insectes.
C'est pas vraisemblable.
Pas vraisemblable. 2 milliards d'êtres humains en mangent déjà régulièrement. Et on peut aussi imaginer un scénario plus souhaitable, et c'est celui qu'on appelle de nouveau, c'est celui de la désindustrialisation de l'alimentation.
Plutôt que de pointer l'industrie en tant que telle, on devrait pointer l'usage qu'on en fait. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait aussi tranché dans mon avis, mais je n'ai passé que 45 ans dans la bouffe. Je ne suis pas comme Jacques Attali.
Mais à lire, hein, Arnaud, parce que franchement, ça suppose des transformations gigantesques de l'agriculture. Améliorer l'accès à la propriété, à l'éducation des paysans des pays en développement, augmenter de 50% au moins les investissements dans l'agriculture des pays en voie de développement. Tout ça, c'est comme un manifeste, Arnaud, qu'on pourrait tous signer, vraiment.
Oui, j'imagine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les progrès de l'agriculture doivent être faits dans l'agriculture et par les agriculteurs. Eux savent. Et il faut faire confiance aux gens qui nous font à manger.
En tout cas, Jacques Attali met le débat sur la table.
C'est bien.
Arnaud, c'est cadeau.
Merci. Ben voilà. Vous l'avez en main, Arnaud, vous nous en rappelez le titre, s'il vous plaît.
Donc c'est Jacques Attali, Histoire de l'alimentation, et c'est paru chez Fayard.
Coédition France Culture.
Et précision.
Édition France Culture, absolument.
Il y a un S à Histoire.
Ouais.
Histoire.
Oui, Histoire au pluriel.
De l'alimentation, ouais. Merci beaucoup. Entre deux plaisirs gourmands, et juste avant, un coup de cœur sucré de notre ami invité Laurent Delmas, un petit coup de R&B choisi par Djoubaka, je vous sers tout chaud. Will I Get Off Easy, de Lee Fields and the Expressions.
C'est l'été sur le plateau dont va déguster.
Plaisir dont va déguster, servi sur un plateau par les chroniqueurs et les chroniqueuses dont va déguster presque au complet. Monsieur Cinéma nous a rejoint, Monsieur Cinéma de France Inter, c'est Laurent Delmas, qui est aussi, il faut le savoir dans la vie, notre voisin de bureau, notre compagnon de table, notre pote du boulot et des goulots. Voilà. Et il a quelque chose à vous faire goûter, chers amis.
Oui, il faut être complètement inconscient pour parler autour de cette table et devant ce cénacle. Bon, enfin, tant pis, je m'y lance. Vous connaissez le décret 85-872 du 14 août 1985, François Régis?
Oui, est-ce qu'il vous le remet en mémoire tout
de suite. Le terme de confiture ne peut être utilisé qu'avec un taux de sucre supérieur à 55%. Eh bien voilà, Bernard Berryer, à Saint-Léger-Vauban, dans le Morvan, s'est dit les décrets, je m'en fiche, je vais faire des confitures, ou des non-confitures en l'occurrence, avec beaucoup plus de fruits que que de sucre. C'est ce que fait Bertillon depuis des années avec des glaces. Évidemment, on s'étonne que ça soit bon. Ben non, c'est normal. Quand il y a plus de fruits que de sucre, quand il y a d'abord du fruit et puis après le reste, ben ça devient effectivement au goût extrêmement bon. Alors, je vous ai apporté quelques-unes de ces productions qui ont, à mon sens aussi, tout l'avantage d'être monofruits. Parce que les confituriers, contrairement aux fabricants de shampoing, par exemple, n'ont toujours pas compris que un shampoing à l'amande, c'est bien, au tilleul, c'est bien, mais alors une confiture amande et tilleul, là, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien sous la langue et on se demande ce que ça veut dire. Donc, lui, fait une confiture à la fraise, et puis une autre à l'abricot, et puis ailleurs de la framboise. Bref.
C'est monofruits.
C'est monofruits.
Et c'est aussi une reine claude géniale.
Et une reine claude uniquement avec des produits locaux, à part évidemment les agrumes, parce qu'il n'a pas réussi à faire monter le sud totalement dans le Morvan, donc les orangers bien à bord.
Ça va venir.
Évidemment. Mais le cassis est de Bourgogne, évidemment. Les Mirabelles et les reines Claude sont de la Lorraine tout près, la myrtille est pas loin, et la cerise est de l'Auxerrois, donc à deux pas. Et tout, dit-il, est dans la cuisson. Très courte, 5 minutes, dit-il, et on arrive à ce résultat mirifique qui fait qu'effectivement, ce sont des produits fabuleux. Il fait aussi des compotes, d'ailleurs, et la compote de framboise que je vous ai apportée, notamment, moi je la trouve formidable.
Qui est-ce qui goûte la compote de framboise?
Tout le monde
On est en train de casser la gueule au pot de la compote de framboise avec Déborah. Quand même, c'est une pure merveille. Une remarque, Laurent, le parallèle avec le shampoing c'est usage externe normalement. Non,
ça ne nous a pas échappé à moi non plus.
Estherel, vous goûtez quoi?
Bah, j'essaye d'avoir le pot de compote, il veut pas arriver jusqu'à moi. J'ai eu la clémentine, qui est avec des écorces toutes fines, compotées. C'est pas tout à fait de la marmelade, on est vraiment entre les deux. Non. Effectivement, les textures sont assez suaves.
Alors, c'est fait dans une petite entreprise artisanale du fin fond du Morvan, là où est né Vauban, d'ailleurs. Vous pouvez aller visiter, c'est formidable. Moi, je suis arrivé le jour de l'arrivage de je ne sais combien de dizaines de kilos de melons, et on se dit heureusement qu'il fait ça, parce que franchement, éplucher autant de melons pour faire sa très très bonne confiture de melon, c'est génial.
J'ai tapé dans la groseille, si j'ose dire là, c'est extraordinaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas goûté une gelée de groseille comme ça.
C'est des... Évidemment, je crois qu'on a oublié de dire le nom. Ça s'appelle la trinquelinette.
Bien sûr, on allait
trinquelinette.
Dire.
Pourquoi? Parce que coule à Saint-Léger-Vauban un petit ruisseau qui s'appelle le Trinquelin. On a l'impression d'être en Provence, mais non, c'est bon, on n'est pas en Provence. On est vraiment dans le Morvan. Et la trinquelinette, elle se trouve pour 6 € à peu près, un peu partout en France et dans le monde. Il exporte à New York, à Rio,
très bon rapport
à Tokyo. Très bon rapport.
Et préciser que 6 €, c'est le prix moyen à peu près du pot, mais ce pot-là fait 370 grammes. On n'est pas dans des tout petits pots de confiture, on est dans le format familial.
Tout à fait. En général, on trouve moitié moins en quantité pour le même prix.
Des confitures qu'on peut vraiment goûter à l'aveugle, on se trompe pas là. On est sûr de retrouver le fruit. Moi, en l'occurrence, j'ai eu le droit à la poire. On a l'impression de croquer dans une poire mûre. C'est étonnant. Et évidemment, il n'y a pas le mot confiture.
Il
n'a pas le droit, mais tant mieux.
Car 55% de fruits et 45% de sucre seulement. Merci beaucoup Laurent Delmas pour cette fabuleuse découverte du fruit dans le pot. On passe au fruit dans la bouteille.
On va déguster sur France Inter.
Oui, le fruit dans la bouteille. Je préparais hier ma chronique, comme chaque veille d'émission, devant la glace, en articulant bien. Je me suis surpris à dérouler ça. Le rosé, le rosé, le rosé, le rosé, le rosé. C'est pénible, hein? Le rosé, le rosé, le rosé. Et pourquoi? Pas simplement parce que le rosé est partout, à tel point qu'il est passé comme le second vin consommé en France, juste derrière le vin rouge, ce qui prend encore plus de sens dès que le mercure, évidemment, va s'affoler. Donc, moi, j'ai pas foncièrement de problème avec le rosé. D'ailleurs, les murs.
Ni avec le mercure, le rosé.
Ni le rasoir, d'ailleurs.
Et le réseau.
Ça a l'air d'être.
Ni le réseau. Allez-y, faites-vous plaisir.
Non,
en attendant, pour sauver quand même
le rosé.
On
pas encore bafouillé.
Je crois que j'ai abusé de la confiture de Laurent. Et en tout cas, les murs du studio peuvent témoigner qu'on a quand même chanté les éloges ici. Des grands bandoles de garde, j'imagine que vous connaissez, bien sûr. Autant des petits rosés légers qui deviennent les meilleurs vins du monde dès qu'il fait 40 degrés à l'extérieur. Donc l'idée, c'est pas de dénoncer une dictature du rosé. Le rosé fonctionne, il a trouvé son public, il a les codes de l'époque, tout ça. Il n'y a aucune espèce de problème. Non, le seul ennui avec les rosés, l'ennui, c'est que les rosés sont ennuyeux. Beaucoup de rosés se ressemblent. Que vous alliez dans les côtes de Toul, que vous alliez en côte de Provence, vous passiez par la Gascogne. Bon, ça fait un grand détour, mais quand même, tous ces rosés-là sont tous étalonnés sur des rosés pâles. On va même jusqu'à les décolorer. Bref, tout ça n'est pas très rose. Donc, ce que je vous propose là, c'est une espèce de parfum d'évasion, un goût du rosé un petit peu différent. Je ne sais pas après la confiture comment est-ce que ça va se passer par différence, mais en tout cas, ça s'appelle Patrice Colin, les coteaux du Vendômois. Donc on est à Vendôme, Loir-et-Cher, vous le saviez, 41, vous le saviez aussi, évidemment. Alors je commence par la fin, ça coûte 8,50 €. Ça va aller ? C'est à peu près.
Bravo, belle performance, Dominique. Voilà.
Donc, je vous laisse goûter. Je vous aide un tout petit peu. Il y a des accents de pamplemousse, des arômes de framboise, du thym. Et vous avez même le droit de trouver
une finale. Oui, il y a du thym.
Ah, vous voyez, la dimension psychologique, comme on peut influencer les chroniqueurs.
C'est de la PNL, carrément.
Jérôme Gagnez.
Ben moi, j'adore ce vin, donc je suis très heureux de le regoûter. On se disait, Dominique, tout à l'heure, que ce n'était pas très poivré. Ça commence à venir avec l'aération.
Exactement, en s'aérant.
Un très, très joli vin.
Alors, je vole, je vous l'ai déjà dit, le journalisme, c'est du plagiat. Je vole ce que vient de dire Jérôme. Normalement, ce marqueur, le Pinot d'Aunis, ce cépage-là, effectivement, on a des notes poivrées qui commencent à s'ouvrir dans le verre. Gribaudin, 2018, 8,50 €. La famille Colin, ce sont des vignes qui sont centenaires. Et si vous avez aimé ce vin, eh ben vous pouvez le trouver dans un livre qui est là, plutôt une nouvelle forme de parution. 90 pages d'air frais, 16 étapes chez autant de vignerons. Alors des vignerons qui ignorent jusqu'à l'orthographe du mot glyphosate. Ne nous cachons pas, il y a quand même un parti pris. Ça coûte 16 €, c'est le numéro 1 de Chasser le naturel. Mmh. Ça va sortir tous les 6 mois et c'est le fait de Pauline Dupin-Aimard. C'est une espèce d'aventure, au final, moderne, d'une jeune fille qui a mené tout ça en itinérance et en camionnette. Et on a le droit de penser à Jacques Néoport et ses tribulations. Voilà, c'est un plaidoyer rafraîchissant qui écrit l'avenir. Merci à elle.
Numéro 1 de la revue Chasser le naturel, au graphisme tout à fait réjouissant. Merci beaucoup pour cette page rosée, Dominique Hutin. On passe à Esterel. Je vois que vous nous avez apporté de magnifiques choux. Vous ne vous êtes quand même pas facilité la tâche. Ils sont beaux en tout cas, bien joufflus.
Ouais, mais en fait, c'est pas ce que vous croyez.
Ah,
ça ressemble à des choux, mais c'est américain. Et ça se fait même en 5 minutes, sans se faire mal aux bras. Parce que la pâte à choux, quand même, hein, ça muscle bien les bras. Je ne vais pas jouer aux devinettes, on va gagner du temps. J'ai préparé des pop-overs.
Attendez, qui autour de ce plateau a entendu parler des pop-overs? Pop-overs.
Moi. Yes, indeed.
Ouais, forcément, Elvira.
Oui. C'est un genre de Yorkshire pudding, un peu.
Exactement. Le pop-over, là, américain, c'est ce qui passe par-dessus. Le propre de cette préparation, c'est de gonfler de façon extravagante à en déborder de son moule.
C'est de la triche, alors?
Non, c'est l'effort bien dosé. Surtout, le pop-over, c'est l'intermédiaire entre le petit pain et le chou. Mm-hmm. Un truc ni salé ni sucré, avec lequel on peut faire plein de trucs. Un peu comme le pareo qu'on met en boule dans sa valise et qui finit par servir à tout. Les amateurs de cuisine anglaise, comme Elvira, ont remarqué sa ressemblance indéniable avec le Yorkshire pudding, qu'on sert avec les rôtis pour pomper généreusement un maximum.
On en faisait chez Maxime quand j'étais petit.
Et bien justement, on peut saucer avec tout ce qu'on veut. Mais pas que de la viande. Ça marche très bien aussi avec l'huile d'olive de la salade de tomates. On peut même aussi le couper en deux, le fourrer comme on veut, de la crème, de la confiture, du tzatziki, du tarama, du petit-déj, de l'apéro. C'est de la gougère sans fromage, le même gonflant, mais pas de goût.
Mais justement, vous dites c'est une gougère sans fromage. Moi, j'aurais pensé à rajouter quelques éclats de mozzarella. C'est possible ou pas?
Alors, à la cuisson, je déconseille, il vaut mieux le garnir après, sinon ça alourdit trop la pâte.
Je comprends.
Et elle ne peut pas devenir extraverti.
Sa dimension fluffy.
Fluffy, c'est
elle complètement... Elle ne peut pas overpopper.
Exactement.
Ce tour de passe-passe, comment fait-on? On veut le savoir.
Alors, c'est vraiment super simple. D'abord, on beurre bien généreusement un moule à muffins. Ça, c'est super important. En mettant le four à préchauffer à 190 degrés.
D'accord.
On fouette 3 œufs avec 25 centilitres de lait et 50 grammes de beurre fondu, un peu de sel, dans un récipient avec bec verseur. Ça va vous simplifier la vie. Vous ajoutez 140 grammes de farine tamisée. Là aussi, c'est un petit détail, mais ça change tout. Ils sont beaucoup plus aériens quand vous tamisez directement au-dessus. On remplit directement à ras-bord les alvéoles du moule. C'est une pâte très liquide, un peu comme une pâte à crêpes. On enfourne 30 minutes, surtout sans ouvrir, comme la pâte à choux. Et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Puis je vais quand même être très honnête, c'est pas une recette de moi encore. Hein. Comme vous disiez, Dominique, c'est encore un plagiat, comme d'habitude, le journalisme. Et ben voilà, c'est la version de Maida Eaters, une grande dame de la cuisine américaine qui a disparu début juin.
Et oui, une grande dame, pas forcément d'ailleurs très connue de ce côté-ci de l'Atlantique.
Non, et c'est vraiment dommage parce que son surnom, c'était Queen of Cakes. À l'origine, Maida, c'était la femme d'un restaurateur de Miami. En 68, une convention républicaine se tenait dans la ville et son mari a eu l'idée de servir un plat, tenez-vous bien, avec de la viande d'éléphant. C'était le symbole du Parti démocrate, donc de l'adversaire. Alors, il avait déniché un importateur. Dans ce restaurant, débarque pour goûter cette viande Craig Claiborne, qui était le responsable de la rubrique cuisine du New York Times. Le plat à base d'éléphant n'est pas passé à la postérité. En revanche, il a goûté les desserts de Maida, il en est resté sur le pop-over, et il lui a conseillé d'écrire toutes ses recettes. Elle a publié en 1974 Maida Eaters Books of Great Dessert, qui fit le début d'une très longue carrière sucrée, puisqu'elle est morte à 102 ans, après avoir créé cookies, brownies, cheesecake et autres desserts américains. Et d'ailleurs, dans l'un de ses livres paru en 1997, elle raconte avoir entendu un docteur à la télévision parler des effets du stress. recommandait pour le limiter de faire de l'exercice, un régime, du yoga ou une balade. Et il paraît qu'elle se serait écriée du fond de son canapé. Préparez des cookies! My Dieter, je crois que toute l'équipe dont on va déguster partage votre philosophie anti-stress.
Bravo, belle...
Une petite question, votre Yorkshire pudding, là, on peut faire des hot dogs avec?
Bien sûr, ça marche très très bien. Oui, oui, en sandwich, c'est merveilleux. Le pot pourri en sandwich, foire en pique-nique, c'est parfait.
L'hommage d'Estherelle Payani à My Dieters, après celui de Elvira Masson pour une autre grande dame de la cuisine américaine la semaine dernière.
Léa Chase, à la Nouvelle-Orléans. Ouais.
Absolument. Imaginez Jérôme Gagnès en visite en Bourgogne.
Oui, ça s'imagine très bien.
Alors, Gagnès ne va pas en Bourgogne que pour compter les coquelicots. Il n'y va pas non plus que pour boire du Bourgogne, ça lui arrive aussi de manger. Et vous tombez parfois sur des adresses rares.
Ben oui, exactement. Je sors de la gare de Beaune. Et donc, si on rate son train, on a la chance d'avoir une excellente adresse juste en face de la gare. Donc ça, c'est formidable parce qu'on peut même guetter son train, le voir arriver à quai et partir en courant, en ayant pris soin de payer son repas, évidemment, pour attraper son train. L'adresse dont je vous parle s'appelle l'Hôtel de France. Et il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant Le Taste Vin, qui a été créé par Nicolas Di Serio et Virginie Dassé. Ils ont repris c'est pas une adresse toute nouvelle, mais elle est pas très connue. En tout cas, moi, je suis quand même allé à Beaune un certain nombre de
mais
fois.
Mais moi aussi, je l'ignorais.
Et voilà une adresse qui est réjouissante parce que c'est l'authentique bistrot qu'on aime avoir sous la main pour déjeuner, avant d'aller goûter. Philippe Pacalet, l'illustre vigneron, enfin, négociant et vinificateur bourguignon est à quelques pas de là. Et c'est vraiment le bon bistrot. Il y a un menu entrée plat à 16 €. Tout est fait maison. C'est une cuisine qui est relativement simple, mais très soignée, avec des produits frais. Encore une fois, tout est fait maison. Le chef de cuisine s'appelle Stéphane Giboulot. Il fait partie de l'aventure depuis le début, en 2011. Il est arrivé au tout début. Et voilà une très jolie petite adresse que je vous conseille, avec une belle carte des vins. Il y a un truc marrant à la carte des vins, il y a le vin mystère. C'est un verre de rouge ou un verre de blanc. On vous le sert et si vous trouvez l'appellation, on vous paye votre verre.
Vous avez gagné ou pas?
Ouais, j'ai gagné le blanc, pas le rouge.
Et citez-nous juste un plat que vous avez dégusté.
Eh ben, j'ai pris l'œuf en meurette.
Voilà,
un incontournable qui est une merveille. Qui est une merveille du genre. Et puis très rapidement la carte des vins qui est raisonnable. Deux exemples très jolis. Le Saint-Brie de chez Jean-Hugues et Guilhem Goiseau à côté de Chablis. C'est un pur Sauvignon, c'est une rareté en Bourgogne. À 30 €, c'est un excellent rapport qualité-prix. Faut vraiment pas se priver parce que c'est un très joli vin. Et puis on parlait de Philippe Pacalet, le Bourgogne Vieille Vigne 2016 en rouge, Pinot Noir, c'est à 35 €. Philippe fait des vins absolument magnifiques.
Mais on part tous au Taste Vin, 35 avenue du 8 septembre 1944, c'est juste en face de la gare de Beaune, hein, c'est bien
exactement.
Ça
exactement, c'est notre prochaine halte.
C'est noté. Où on a envie de s'attabler. Merci beaucoup Jérôme Gagnès. Dans un instant, on vous promet une recette mauritanienne géniale, une lecture des paysantes, un hommage touchant à une famille gasconne, une super adresse dans la Manche, un vin rouge de Provence, le fameux quiz cinéma de Laurent Delmas. On vous promet aussi de ne plus jamais jeter ses écorces de pastèque. Tout ça, ça se passe après Kepler du jeune groupe français Ish.
Je suis
autour du plateau dont on va déguster en ce dimanche pour vous faire partager nos plaisirs de l'été. Elvira Masson, Esther El Payani, Déborah Dupont, Jérôme Gagnez, Arnaud Daguin et Dominique Hutin. Sans oublier évidemment notre invité du jour, Laurent Delmas. Elvira, vous êtes allé faire un tour dans une manifestation aux ambitions à la fois culinaires et solidaires. C'est une manifestation que vous suivez depuis ses débuts sur France Inter.
Ça s'appelle le Refugee Food Festival, oui. C'est la 4e édition qui se déroule jusqu'à la fin du mois de juin dans 15 villes en France, mais pas que, New York, Londres, Copenhague, Bologne, Madrid, Cape Town. Le principe, c'est un projet itinérant qui propose de confier les cuisines des restaurants de ces villes, certains restaurants, à des chefs en exil qui viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'ailleurs, de Mauritanie. Je suis allée pour ma part glisser mon micro à la Résidence, le restaurant tenu toute l'année d'ailleurs, pas uniquement pendant le festival, par des cuisiniers réfugiés, à Grand Control dans le 12e arrondissement à Paris. M'y attendait Aruna So, qui m'a fait découvrir comment elle cuisine le mil, une céréale fondamentale dans la culture mauritanienne et de l'Afrique de l'Ouest en général. Il nous en prépare une version sucrée, une recette toute simple, emblématique, qui s'appelle le tiakri.
Le principe, c'est d'acheter le sachet et de mettre temps pour temps eau et les graines de mil. C'est juste de l'eau tiède que vous recouvrez, soit vous mettez dans le micro-ondes, 2 minutes, vous le sortez, vous laissez refroidir et vous mettez votre crème fraîche dedans.
Et la crème fraîche, que vous appelez crème fraîche, c'est un mélange?
C'est de mélange de lait concentré et fleur d'oranger et un peu de sucre. Et si vous voulez changer les goûts, vous pouvez essayer la vanille ou coco.
Il n'y a pas de crème fraîche, alors?
Si, il y a un peu de crème fraîche avec lait concentré.
Temps pour temps ou il y en a un qui est un peu plus présent?
Moi, j'aime bien quand même manger moins gras, donc je mets juste une cuillère de crème fraîche.
D'accord. Et fleur d'oranger, c'est classique en Mauritanie ou c'est vous qui avez twisté la recette?
En fait, c'est une recette qui rassemble les deux communautés qui sont aujourd'hui vraiment divisées. Fleur d'oranger, c'est la partie de la Mauritanie maghrébine. Et les graines de mil, c'est un peu les gens de l'Afrique noire.
Et une fois qu'on a cuit son mil et que la crème est prête?
On laisse refroidir les graines de mil. Après, on met directement notre crème fraîche dedans et on le déguste.
Et emballer, c'est peser, c'est tout simple?
Oui, c'est tout simple. Pour un petit déjeuner, pour changer le traditionnel porridge.
C'est le porridge mauritanien?
C'est le porridge mauritanien et un peu Afrique de l'Ouest parce qu'on le consomme beaucoup.
Tu peux goûter?
Oui, allez-y.
Eh bien moi, j'ai goûté ce porridge mauritanien où on remplace en fait l'avoine par du mil, qui est le céréale emblématique d'Afrique.
Exactement, c'est le tiakri. Le mil, c'est le nom vernaculaire qu'on utilise pour désigner diverses espèces ou variétés de graminées. On distingue les gros mil ou sorgho, des petits mil ou millet. C'est pas délicieux ça?
C'est délicieux.
Mais avec ce goût un peu torréfié en plus du mil.
Et ce qui est étonnant, c'est cette note fleurie de fleur d'oranger.
Fleur d'oranger.
Qu'on verrait plutôt du côté du bassin méditerranéen.
Mais bien sûr, c'est ce qu'il explique à Aruna So. C'est le clin d'œil qu'il fait à la communauté d'origine maghrébine qui vit en Mauritanie.
Et pas si compliqué. En plus à
faire. Hyper simple. Et la crème qu'il prépare, ce qu'il appelle la crème fraîche, c'est amusant. La crème fraîche, c'est un mélange de lait concentré non sucré, de yaourt. Mais il met quand même un peu de crème fraîche, mais pas trop, parce que sinon c'est trop gras.
Mais c'est bien.
Moi, j'ai mis un peu de sucre complet, de panela. On peut mettre ce qu'on veut aussi, comme il le dit. Vanille, noix de coco, un fruit frais, en l'occurrence de l'abricot. On peut mettre de la mangue. C'est tout bête.
Enfin, on notera que la cuisine fusion, ça ne marche que quand on met de la crème fraîche, quand même.
C'est ça.
Le tiakri, et on retrouve cette recette sur franceinter.fr à la page
et
on va déguster.
Aruna So cuisine aujourd'hui à Lille, ça va être un peu tard, là, au très chic restaurant Clarence, au déjeuner, dans le cadre du Refugee Food Festival. Il sera également derrière le piano du Refettorio à Paris, samedi prochain, le 29 juin.
Dans la crypte de l'église de la
Exactement.
Madeleine.
Exactement. Bravo à Marine Mandrilla, créatrice du Refugee Food Festival, que l'on suit, que l'on soutient, dont l'énergie, l'engagement nous épatent.
Oui.
Refugeefoodfestival.com.
Ça marche. La cuisine, les madeleines de Proust, les recettes, c'est bien souvent la seule chose qui reste d'un pays dont on s'exile. Et Esterel, vous en avez la preuve en page.
Oui, la Russie dans les années 20, l'Uruguay dans les années 70, le Sri Lanka dans les années 2000. Stéphanie Schwarz-Bros a réuni dans ce livre, La cuisine de l'exil, paru aux éditions Actes Sud, les témoignages et les recettes de 25 immigrés, dans un livre qui réussit à être à la fois touchant et gourmand. Elles racontent leur enfance, leur voyage, plus ou moins chaotique, jusqu'en France, le choc de leur arrivée, ce qu'ils ont adopté de la cuisine d'ici, ce qu'ils ont transmis de leurs origines dans les plats. On découvre ainsi une foule de recettes traditionnelles, comme le kidim brésilien, le flan à la noix de coco, les pastels sénégalais, les petits chaussons au thon. Mais on trouve aussi un tiramisu à la fleur d'oranger et à l'orange, où le Maroc et l'Italie se rencontrent dans la cuisine d'un HLM de Seine-Saint-Denis. Beaucoup d'histoires, justement, racontent cet oscillement, ce sentiment de ne plus savoir d'où l'on vient, ni ce que l'on est vraiment, jusqu'à ce que l'on se reconstruise en y mangeant simplement une bonne odeur de plat qui mijote. Parce qu'après tout, la cuisine, c'est aussi un pays en soi. un pays qui n'a pas de frontières. Donc c'est un livre qui est vraiment très très touchant, plein de bonnes idées, de bonnes recettes. La cuisine de l'exil, récits et recettes de Stéphanie Schwarzbrod aux éditions Actes
Sud. Il est super ce livre.
24 témoignages d'hommes et de femmes, chacun suivi de 5 recettes emblématiques du pays concerné, et on voyage de la Pologne juive au Brésil en passant par le Vietnam et l'Argentine.
Il y a de la crème fraîche ou pas?
Plein.
Un peu partout j'imagine. voilà une belle façon de passer intelligemment son été en lisant La cuisine de l'exil tout en salivant. C'est chez Actes Sud, le coup de l'âme d'Arnaud Daguin est rebaptisé le coup de l'arme.
On va déguster.
Oh douleur, oh difficulté. Comment rendre hommage à une mère et son fils, chers à mon cœur, disparus à 2 jours d'intervalle? Huguette et Denis Mélier. Huguette, qui incarnait si bien la cuisine paysanne du Sud-Ouest, et Denis, son fiston, nous ont quittés brusquement il y a quelques jours. Aurais-je le cœur à l'oraison? À l'oraison funèbre? J'en ai des sueurs, mais on a beau suer, on n'en est pas pour autant beau suer. Ah, Denis Mélier, éternel fondateur des restaurants Gigot. Gigot où pendent les jambons des cochons noirs de Bigorre. Gigot où la cuisine est dévouée aux produits et aux saisons. Gigot qui réconcilie la ville et la campagne. Denis Mélier, le grand, le gros, l'énorme, qui derrière le panache rouge des Gigots a rallié un extraordinaire réseau de paysans, maraîchers, éleveurs, bergers, brasseurs, vignerons, tous dans le vivant. Tous membres de cette belle famille, tous en portrait sur les murs des Gigots et à l'honneur dans leur magazine. Ce magazine s'appelle Plouc, Plouc avec un K pour faire moins plouc, et la belle plume de Sébastien Vessière vous y narre leurs histoires, leurs valeurs, leur paysage. Lisez Plouc, vous y verrez les prémices d'une agriculture du vivant, celle dont nous avons désespérément besoin. Une agriculture positive à tous les étages, du sol jusqu'à l'assiette. Une agriculture servie par une cuisine sans chichi, cuisine humble et efficace, entièrement dévouée à transmettre les valeurs de ces beaux produits. Vous comprendrez alors en quoi ce petit groupe d'humains esquisse un futur souhaitable de notre alimentation en remettant le système dans le bon sens. Des sols vivants qui font des produits vivants qui font des êtres vivants et des êtres vivants qui font des territoires vivants. Ah, Denis Mélier, glorieux inventeur du coq à deux culs. Le coq à deux culs, c'est pas une volaille à deux croupions OGM. Non, non, c'est un acronyme. COQQ. C'est 4 questions à poser à celui qui me restaure. Comment? Où? Qui? Quoi? Comment a poussé ce blé, par exemple, qui fait ce pain? Sur quel sol? Avec quelle pratique? Quel impact sur le climat, l'air, l'eau, la biodiversité? Où? Où a poussé ce blé? Dans quel territoire? Quel transport? Quel bilan carbone? Quel bilan social? Qui a fait pousser ce blé? Qui est cet humain qui me nourrit? Quel est son savoir-faire, son histoire, sa culture, son avenir, qui est aussi le mien? Et enfin quoi? De quoi ce blé est-il constitué? Est-ce qu'il contient ce dont j'ai besoin pour me restaurer? Est-ce qu'il est exempt de ce qui pourrait me nuire? 4 questions simples auxquelles très peu de nos restaurateurs savent répondre aujourd'hui. C'est vous dire où on en est? Bref, on a compris. Pour connaître notre bouffe, redevenir intime avec ce qui nous constitue, adoptons un coq à deux culs. Il saura nous réveiller. Coq à deux culs, corico, si j'ose dire. Et prenez exemple. Ô grandes marques et chaînes de restauration, prenez exemple sur feu Denis Mélier, qui depuis son coin de Gascogne vous a montré la voie. Lui qui savait tout de ses produits et de leurs auteurs. Lui qui n'hésitait pas à révéler à quel prix il les achetait. Lui enfin, avec qui je partageais la certitude que la cuisine paysanne est la cuisine de demain. Reposez donc en paix, Huguette et Denis, vous avez fait le job. Et nous, ben nous on continue.
Et on continue justement, Arnaud Daguin, mais où?
Eh bien, on peut continuer à Marciac. Même si on n'aime pas le jazz, on peut y aller hors festival. Marciac est un petit village du Gers dans lequel, justement, Denis et son équipe ont installé un lieu formidable qui s'appelle le Gigot à Marciac et qui est un endroit absolument fantastique. Et c'est ouvert tout l'été. Donc, courez-y. Vous allez voir, c'est vraiment très, très bien.
Merci Arnaud Daguin et hommage à Huguette et Denis Mélier. Merci beaucoup. On arrive au climax de cette émission. J'espère que vous êtes tous prêts. Concentration, chers amis, autour du plateau dont on va déguster, car Laurent Delmas, qui est parmi nous en ce dimanche, c'est notre invité surprise, eh bien, il vous a concocté un petit quiz cinéma qu'on pourrait intituler, Laurent, quand le cinéma se met à table.
Oui, oui, mais le cinéma s'est mis très tôt à table. Hein. Dès les premiers films de Lumière, il y avait le déjeuner de bébé, sur lequel d'ailleurs on voyait sur la table, il y avait une bouteille de cognac. Comme quoi chez les frères, chez les Lumières, ça, ça dépotait dès le petit matin.
Laurent a sélectionné trois extraits. Je vous propose d'écouter le premier, attention, en intégralité, et celui qui a trouvé donne sa réponse juste après.
Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température ?
Voilà, monsieur.
Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes ?
Si. Me donnerez la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça ?
Si.
Oh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon ?
Bon, venez dedans, derrière ça, deux bons petits civaliers.
Bien, monsieur. Oh non !
Ah
si ! Ah non, tu sais
bien. Si.
Julien a 57.
Doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après, il y a les profiteroles.
Dominique Hutin a trouvé, au bout de deux secondes, chaise, il n'en peut plus. Il saute comme un cabri dans le studio.
Dans le starting block.
Bah, j'espère que c'est la bonne réponse, quand même.
Espérons, je me lâche. Le tatoué.
De qui?
De Lisa M'échappe, mais en tout cas avec Gabin et de Funès, on y parle de cidre deux secondes après l'arrêt de l'extrait qu'on vient d'entendre.
Denis de la Patelière, 1968, et en fait, c'est Gabin qui ouvre Louis de Funès à la vraie vie et à l'épicurisme.
Vous l'aviez, les autres, ou pas?
Moi, je l'avais, mais un peu après la musique.
Ah, vous l'aviez,
Jérôme. Vous n'êtes pas assez normand, monsieur Jérôme.
Non, c'est vrai, vous avez raison, Denis.
Peut-être aurez-vous la réponse pour ce deuxième extrait.
En prison, le dîner, c'était toujours tout un truc. On avait des pâtes en entrée, et ensuite on avait viande ou poisson. Pauli s'occupait du travail de préparation. Il faisait un an pour outrage aux forces de l'ordre, et il avait vraiment le coup de main pour l'ail. Il servait d'un rasoir, et il coupait l'ail tellement fin que ça fondait dans la poêle, avec juste un filet d'huile. C'est une bonne recette. Vigny était responsable de la sauce.
Ah, je crois qu'Elvira a eu la réponse. Alors ça a pris à peu près 4 secondes.
Oui. Mais je suis fan,
Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie?
Bah rien, ça, c'est la voix off qui court tout le long du film, quoi. Oui. C'est Les Affranchis de Scorsese.
Oui, bien sûr, avec un incroyable repas en prison, avec effectivement de l'ail coupé à la lame de rasoir.
Voilà,
c'était des meatballs, je crois, une délicieuse bolognaise.
Ouais. Enfin, des pâtes.
En Italie, on dit al ragout.
Exactement.
Mais c'est effectivement cette grosse sauce tomate bien mijotée avec de la viande.
C'est absolument génial. Ouais.
Les Affranchis de Scorsese, on a l'année ou pas?
On l'avait si on était bien.
Surprise.
1990, bien entendu.
C'est ça, 1990.
Ray Liotta.
Et comme la vie est injuste, on voudrait finir par, là vraiment, un traquenard. Un extrait compliqué. Celui qui trouve a toute ma reconnaissance.
Et maintenant, dites-moi, que mange-t-on ici?
Ben, vous savez, ici, c'est un pays de braconniers. Alors, ce qu'on mange le plus, c'est du gibier.
Du gibier. Et quel gibier?
Ben, moi, ce que je préfère, c'est les petits oiseaux. C'est le plus blanc, le plus roussé.
Et comment les fait-on cuire?
Je les mets à la broche, bien habillés, dans une platine de lard. J'arrange bien mon feu de sarment. Je règle bien le tournebroche, et les petits oiseaux se mettent à fondre, et le jus tombe sur des rôtis, alors des rôtis bien épaisses, de pain de campagne. Quand ils sont bien à point, je prends tous les foies, et avec ces foies écrasés,
je fais pas mal, non? En septembre prochain, Nicolas Toufflet pour le jeu des 1000 euros. On a entendu des choses intéressantes.
Oui, on a entendu Marcel Pagnol, par exemple.
De Jérôme Gagnès, faut bien reconnaître.
Ouais. Alors, mais
qui s'y connaît en cinéma français.
Y a peut-être une réponse.
Moi, je pensais que c'était Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir.
Oh non, non.
Dominique, tu sors.
Non, franchement, c'est un film de Marcel Pagnol. Je vous concède qu'il n'est pas extrêmement connu. C'est un moyen métrage qui a donné lieu ensuite à une pièce et il s'appelle Six Galons.
Mais oui, quand même.
Six Galons. Mais oui, c'est
un
le
moyen métrage, Laurent.
Non, mais...
Il est dans la collection de l'intégrale de Marcel Pagnol en DVD publié par son petit-fils Nicolas Pagnol. Non, franchement, c'est un vrai film de Pagnol et c'est un texte merveilleux sur un chef qui, tout d'un coup, après des années et des années d'abstinence, décide de refaire de la cuisine.
C'est ça, et il est question de petits oiseaux.
Ah, de petits oiseaux cuits à la broche, et là, il y a de quoi vraiment fondre avec eux.
Dans cette région-là, on n'est évidemment pas sur les ortolans, mais on devait être sur les becfigues.
C'est
très probable.
Il y en avait encore.
Voilà, et où on pouvait en manger la conscience tranquille quand on était chasseur du dimanche.
Maintenant,
on s'arrête, évidemment. Bien sûr.
Ou alors, on fait des alouettes sans tête.
Ah, bravo.
Les paupiettes, à défaut d'oiseaux, ça marche très bien.
Ou on mange de la dinde.
Toi-même.
Je ne visais évidemment personne. Merci beaucoup, Laurent Delmas.
Merci de l'invitation, François.
Ah, ça, vous reviendrez, c'est une promesse.
Oh, alors là,
on finit avec une petite adresse de Dominique Hutin, un truc de cuisine génial de Déborah Dupont, une quille provençale de Jérôme Gagnès. Dominique, je suis sûr qu'on va dans la Manche.
Ah oui, mais ça va être facile, là, évidemment, après tout ça. Je vais quand même essayer de vous livrer mon petit jardin secret. Tiens, juste avant que dans la Manche, je vous l'ai dit. Un resto dans lequel j'aime aller me repaître de steak végétal, lait de soja, fromage de tofu, saucisses vegan, viande artificielle.
Ah, ça vous ressemble, on ne croit pas, ça.
Fait rêver, voilà. Ça. Des aliments, je n'ose plus dire nourriture, des aliments travestis qui ne disent plus leur nom, dont certains même deviennent nocifs à force d'être transformés avant d'arriver dans notre assiette, que l'on est prié d'accueillir la fourchette en joie, mais l'estomac en berne. Bref, plutôt que de ramener le fait de s'alimenter à une simple action fonctionnelle, un geste obligé, quasiment contraint, je vous propose plutôt de repousser cette tendance du faux, cette fausse nourriture, et de vous guider au pied du Mont-Saint-Michel. Alors, pas côté boule de neige made in China, je vous rassure. On va aller à Genay.
Made in China.
Genay, comme les fleurs jaunes que vous connaissez.
Avec un S à la fin.
Voilà. On est au sud de la Manche. Une petite auberge en pierre s'appelle chez François.
Ah oui.
Et voilà, un restaurant qui fait aussi bar tabac, mais aussi, je cite, des chambres petites mais propres. Ça, c'est important.
Ça, c'est bien ça.
Et en fait, chez François, historiquement, c'est une adresse cochonne. Alors, comprenez, entièrement tournée vers le cochon qui est cuit à la cheminée devant les convives. Et François a depuis un petit peu étendu son répertoire, mais vous pouvez trouver des entrées à 5,90€, je répète, à 5,90€, des marbrés de pieds de veau et de jambon cru en aspic, des tagliatelles de courgettes, donc vous voyez, c'est assez œcuménique au final. Vous pouvez trouver, comme on dit, à Paris 11e, le plat signature, tu vois. Le groin de cochon farci, boudin noir, ça c'est 11,90€. La grillade de porc, c'est 9,90€. Évidemment, les cuissons sont maîtrisées comme personne. Et on a même droit depuis quelques temps aux confitures maison. Et vous voyez que là, vraiment, on prend le large par rapport au registre porcin parce que... Là, c'est pas une confiture au cochon, non. C'est à l'infusion de cardamone, par exemple, alliance de pamplemousse, potiron, abricot et potimarron. Ah donc, vous voyez, c'est vraiment...
On en parlait tout à l'heure. Il y a pas assez d'ingrédients, là. Il en manque pas un.
Alors, François n'est pas une vieille dame qui fait du tricot derrière son comptoir. Non, François fait du jazz. Il joue de l'accordéon. Voilà. Et comme Genay, c'est aussi le village départ pour traverser la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, allez-y. Allez-y, allez-y, retournez-y, c'est une adresse fantastique. Mais surtout, le vrai tour de force, c'est créer un dépaysement, des souvenirs autour d'une formule qui est simplissime, réconfortante et vraie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer la saucisse vegan à la cheminée avec une sauce soja.
Du vrai cochon chez François, c'est donc à Genay, dans la Manche, numéro...
50
Bravo, bravo Dominique. Merci beaucoup, ben, on ira sur votre conseil, ça c'est sûr, et je pense qu'on ne sera pas les seuls.
Réservés.
Et on réserve. Promis, on ne jette plus les écorces de pastèque, c'est un des fruits stars de l'été. On en fait des...
Des pickles et on les croque.
Et ça marche ?
Ça croque bien.
Alors ça croque bien.
C'est délicieux.
C'est les cornichons du pauvre ?
Exactement, j'ai compilé en fait des préoccupations récurrentes dont on va déguster, à savoir la fermentation, l'éco-responsabilité, ne pas jeter et faire du fait maison. Donc en fait, c'est vraiment une recette toute simple. L'idéal est bien évidemment d'avoir une pastèque bio avec un couteau pointu. Donc une fois que vous avez mangé votre pastèque, il reste donc l'écorce, la partie verte et puis aussi une partie blanche, la fameuse partie où on dit aux enfants ne mange pas ça, tu vas avoir mal au ventre.
Oui, on est tous passés par là. Tu vas aller aux toute la journée.
Exactement, sauf que fermenter quelques jours, quelques semaines, ça passe très bien et c'est au contraire très digeste.
Ça veut quand même dire que la partie verte, c'est au compost.
Exactement.
Hein, c'est pas dans le bocal.
Vous retirez en fait la partie verte avec un couteau pointu, il vous reste donc une écorce blanche d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Vous la coupez en fait en petits tronçons, vous les mettez dans un bocal bien propre. Et ensuite, pour un bocal, vous faites chauffer un verre en fait de vinaigre de cidre, un verre d'eau, un petit peu de sucre, enfin en gros une cuillère à soupe de sucre cassonade, une cuillère à soupe de gros sel non raffiné de préférence, les épices que vous souhaitez. Alors ici, c'est un mélange d'Olivier Rollinger et de Bina Paradin qu'ils appellent le panche poron. Donc c'est un mélange de fenugrec, grec, fenouil, moutarde brune, cumin, nigel. Mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre en fait de l'aneth, de l'ail, des graines de moutarde, des graines de poivre.
Des graines de coriandre écrasées.
Oui, mais alors là, je savais que Jérôme n'en mangerait pas avec de la coriandre.
La graine de coriandre, j'aime bien.
C'est les feuilles.
C'est les feuilles que je n'aime pas. C'est gentil de penser à moi, Déborah.
Donc, verser sur les écorces, on bouche le bocal, on le laisse minimum 15 jours jusqu'à 45, et ensuite, ça se croque.
Ça marche, et on croque ça avec très bon. Une très belle terrine de cochon.
Oui, bien sûr. Oui, en accompagnement, comme des cornichons, quoi.
Exactement.
Exactement.
Ou un steak de tofu, non?
Non.
Ça le reprend.
Quoique,
c'est nerveux. Ceci dit, le vinaigre de cidre qui a servi à ça est particulièrement bon, je trouve.
C'est un artisanal.
Réputé pour être doux. Ouais, donc ouais, acétique ouais, et piquant.
Moi, je trouve que ça ajoute beaucoup.
Les pickles d'écorce de pastèque signée Déborah Dupont. En voilà une recette qui va avoir du succès cet été auprès de nos auditeurs. Et la recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. On termine avec... Oh non, pas lui. Jérôme Gagné.
Encore.
Voilà. Vous êtes entraîné combien de temps?
Bah, ça fait 2 jours, je suis au taquet, là, j'en peux plus. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Je me suis engueulé avec mes voisins. Bah, je m'en vais, en fait. Ma chronique est faite, je suis ravi. Alors, on va parler un peu dans le prolongement de ce que nous disait l'ami Dominique. Il a évoqué assez rapidement ce qui tient lieu de vin pour les Provençaux, c'est-à-dire des rosés à glaçons. On va parler cette fois-ci du vrai vin de Provence, des très bons vins de Provence, à travers une association qui s'appelle Rouge Provence. J'en profite pour avoir une pensée très amicale pour nos amis de la Drôme qui ont subi une grêle colossale, et notamment des vignerons de Croz-Hermitage sur le plateau des châssis qui ont vraiment pris très cher il y a quelques jours. Donc voilà, on les embrasse fort, on pense beaucoup à eux et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite. Précisément, l'association Rouge Provence, en fait, elle est née d'une grêle très importante en 2012 qui avait affecté notamment le domaine de le château de Rochefort. De Roquefort, pardon, de Raymond de Villeneuve. Et puis, ses copains, ils sont allés le voir, ils sont allés lui donner des raisins. Ils étaient une trentaine, comme ça, il a pu sauver son domaine. Et de cet élan est née l'idée d'une association qui s'appelle Rouge Provence. Au départ, l'idée, c'est Peter Fischer du château Révélette et Jean-Christophe Comor des Terres Promises. C'est quand même pas les plus mauvais en Provence pour faire du vin. Et ils ont créé cette association qui avait pour but à la fois d'être une association solidaire et aussi de promouvoir et de mettre en avant les autres couleurs de la Provence, à savoir le rouge et le blanc. Et c'est très intéressant. Alors, cette association, elle est dirigée au jour le jour, j'allais dire, par Stéphane Bourret de la Bastide Blanche à Bandol. Et j'ai goûté là-bas plein de très bons vins. Beaucoup de vignerons sont bio et j'en ai retenu 2 qui m'ont beaucoup plu. Tout à l'heure, je vous ai servi un blanc que tout le monde a goûté. C'est...
Tout le monde a fini.
Que tout le monde a fini, d'ailleurs, aussi. Coteau d'Aix en Provence, blanc 2018 du château Révélette. C'est Peter Fischer. C'est un terroir d'altitude. On est à presque 400 mètres d'altitude, entre 3 et 450 mètres d'altitude. C'est un très joli vin provençal, blanc, méridional. C'est pas technologique pour une fois. C'est pas levuré. C'est pas le truc qu'on trouve partout, qu'on pourrait faire aussi bien en Californie qu'ailleurs. Non, là, c'est vraiment provençal. Les deux pieds sont en Provence. Et on a donc ce très joli vin blanc. Je vous encourage à goûter les vins de ce domaine, le Château Révélette, parce que franchement, c'est un super domaine. Et ce vin est absolument délicieux. C'est un assemblage de Rolle, du Nid Blanc et de Sauvignon. Et ça donne un vin avec cet accent méridional, peu d'acidité, de jolis amers fins, un petit caractère végétal très élégant et puis vraiment cette douceur méridionale qui en fait un très joli vin, aussi bien d'apéritif que pour la tonnelle, pour le goûter, sachant qu'évidemment notre copine modération...
On a échappé au petit déjeuner.
C'est le côté de
Jérôme.
Je dis que notre copine modération sera à table avec nous exceptionnellement. Après, je vous parle d'un autre vin. On l'a tous dans notre verre. Vous le goûtez, vous me dites rapidement ce que vous en pensez.
Ben en tout cas, c'est pas lourd et ensoleillé.
C'est rond, c'est sphérique.
Oui.
Oui, c'est très rond.
C'est très soyeux.
Rond, mais c'est pas lourd.
Non, et en fait, on a là un vin qui est un assemblage de Syrah à 25%, de Cinsault à 25%, de Grenache à 50%. C'est le domaine du Défant. On est en l'occurrence en Coteau Varois, s'appelle le Champ du Bécassier 2018. Ça vaut 12 euros.
Bien.
C'est une petite gourmandise, une merveille. Le Cinsault apparaît sous ce côté un peu soupe de fraises.
C'est ça.
Le fruit est délicat, la matière est délicate. Voilà encore une fois un vin qui, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la Provence lourde, c'est pas la Provence pénible. Au contraire, c'est un très joli vin, élégant.
Et on trinque tous ensemble pour fêter cette fin de saison.
À la vôtre.
À la vôtre.
Chin.
À
Chin, les amis.
Vôtre.
Merci à tous, j'étais très heureux de cette année en votre compagnie, chers amis, même si en fait ce n'est pas un vrai au revoir, puisque je vous annonce qu'on va déguster Reste ouvert pendant l'été, avec des émissions fraîches pendant les dimanches du mois de juillet, et le meilleur dont on va déguster rediffusé pendant les dimanches du mois d'août. Mais en plus, chers auditeurs, vous aurez le droit à une double ration dont on va déguster, oui, et on en est très heureux, puisque nous vous ferons redécouvrir tous les samedis de l'été à 11h une série d'émissions On va déguster sur les cuisines étrangères. Première escale de notre tour du monde, la cuisine de Corée du Sud, le samedi 29 juin à 11h. Laurent Delmas, on vous retrouve à partir du lundi 1er juillet. Redonnez-nous les références de votre émission estivale.
Du lundi au vendredi à 10h, Ciné qui chante.
Oui, et on vous écoutera avec grand plaisir. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Vous. Merci à tous. Au revoir les amis.
Au revoir. À bientôt.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.